RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui en Égypte. Aucun chiffre précis n'existe, mais dans le pays, les enfants des rues seraient plusieurs dizaines, voire centaines de milliers. Avec la crise économique que traverse l'Égypte, le phénomène s'amplifie. Ils vivent en bandes, de petits boulots ou de mendicité. Et au-delà des difficultés éprouvées pour se nourrir, se vêtir, trouver un endroit fiable pour dormir, ces enfants sont aussi directement exposés à une multitude de violences et de menaces tentées par la consommation de drogue et le repli également. Devant cette situation dramatique, les associations tentent de s'organiser pour donner une seconde chance à ces enfants, les protéger de ces dangers et leur donner la confiance que la société ne veut pas ou plus leur accorder. Les préjugés sont tenaces face à ces petits qui ont été pour la plupart contraints de quitter un environnement familial insoutenable. Et face à l'immensité, la complexité du problème, les travailleurs sociaux se sentent isolés, parfois même désespérés. Enfants des rues en Égypte, l'impossible réhabilitation, point d'interrogation. C'est un grand reportage signé François Humfer Kataji.
Il est 20h dans le quartier de Mahadi, au Caire. La nuit est déjà tombée depuis 2h, mais la vie y est toujours aussi dense. Les livreurs de fast-food en moto évitent de justesse les passants qui traversent la route. Les camions de police tournent et les vendeurs de rue sont encore là, à crier à tue-tête pour vendre leurs derniers produits. C'est dans ce chaos organisé que l'équipe du SAMU social entame sa maraude, comme 5 soirs par semaine, à la recherche d'enfants qui vivent nuit et jour dans ces rues animées de la capitale.
Ils dorment sous les ponts, ils dorment par exemple sur les rives du fleuve ici, dans des véhicules abandonnés, devant la mosquée. Quand ils ont de l'argent, maintenant, ils peuvent louer une petite chambre. Les maraudes font de 4 à 5 heures, ça dépend des enfants qu'on peut rencontrer. On peut rester dans un site 2 heures, on peut rester dans un site un quart d'heure si on ne trouve personne. Actuellement, les enfants nous connaissent et connaissent la fourgonnette. Alors, c'est eux qui nous appellent. Ici, il y a beaucoup de foule et c'est eux qui courent vers nous.
Le docteur Youssef Nabil, la cinquantaine, bonne humeur communicative, accompagné d'un psychologue et d'un assistant social, monte à l'arrière d'une fourgonnette blanche, floquée SAMU Social International. L'espace est étroit, mais il y a assez de place pour une petite table de consultation et un placard à pharmacie.
C'est quand on a commencé en 2008, on faisait des maraudes jusqu'à 2-3 heures à l'aube pour chercher vraiment où ils sont cachés, les enfants, parce qu'ils ne savaient pas. Et puis, on a un problème avec ce véhicule, parce que les rafles de police descendent avec un véhicule pareil, mais tout blanc. Hein. Tu sais, les enfants peuvent dire que ah, ça c'est la police.
Vivre dans la rue, c'est s'exposer à un certain nombre de trafics et d'activités illégales. À ce titre, les enfants sont régulièrement contrôlés et arrêtés par la police. Ils sont aussi les cibles privilégiées des forces de sécurité qui procèdent régulièrement à des rafles dans les rues du Caire. Instaurer une relation de confiance est donc un challenge pour les équipes du SAMU social. Au fil des mois et des années, un grand nombre d'entre eux s'est habitué au passage de l'équipe, a appris à reconnaître son véhicule et son conducteur. Premier arrêt devant un fast-food, lieu privilégié des enfants pour faire la manche. Rapidement, un petit groupe se masse autour de la fourgonnette avec enthousiasme. Chacun fait la queue sous l'œil attentif d'Ahmed qui supervise la file d'attente. Pendant qu'un par un, les enfants bénéficient d'une consultation privée.
Venez, venez, comment ça va? Quelles sont les nouvelles? Et toi, tu vas bien?
Hicham, à peine la vingtaine, grimpe dans la camionnette, une petite fille dans les bras. Nora, boucle en bataille et yeux humides, se débat face à la spatule de crème que lui présente le docteur Youssef. La petite fille a un peu plus de 2 ans, ses joues rondes sont rongées par une infection sévère de la peau. Toute la soirée, les enfants, 2 ans pour la plus jeune, fin de l'adolescence pour les plus vieux, se succèdent dans le cabinet mobile. Le docteur Youssef soigne petits bobos, grosses infections et blessures en tout genre, mais presque tous partagent un point commun, leur addiction aux médicaments et à la drogue.
Tu fumes du hash?
Oui, j'en ai.
Et tu fumes des cigarettes?
Oui, comme tout le monde.
Et tu prends des pilules de tramadol?
Non, ça par contre, je t'assure, je prends pas de
pilules. Tu sais, tes yeux te trahissent.
La rue pousse de nombreux enfants à se droguer. Il faut dire que les conditions de vie y sont difficiles. La précarité, bien sûr, la violence aussi.
Il ne peut pas vivre seul. Il vit dans des petits groupes. Le groupe doit avoir un caïd, un chef, qui ne peut plus maintenant travailler comme les petits-enfants. Par exemple, faire la mendicité, par exemple, on va lui donner quelque chose. Nettoyer les vitres, non. Alors, c'est lui qui est le chef. Il dit que moi, je vous protège des autres, mais vous ramassez l'argent et moi, je redistribue l'argent. Il peut même aller jusqu'à faire une relation sexuelle avec eux pour mettre son autorité sur eux et dire que moi, seulement, c'est moi qui fais ça seulement pour toi, mais je vais te protéger des autres.
Lors des discussions, les enfants se livrent. Les raisons de leur présence dans la rue sont variées. L'un d'eux raconte que sa mère l'attachait à son lit. Un autre qu'une bagarre pour défendre sa sœur l'a décidé à fuir. Des histoires que les équipes de l'ONG Banati entendent aussi quotidiennement dans le centre d'accueil de jour. Des histoires de violence dans les familles, englouties par celles qui surviennent ensuite dans la rue. Souir Waïd est éducateur spécialisé.
Nous sommes confrontés à un grand nombre de cas de violence dans la famille, dans la rue. Nous devons gérer ces problèmes et travailler dur pour comprendre quelle en est leur cause.
Souir Waïd porte un hijab motif panthère et une longue robe noire. Responsable du centre, elle fait la visite du bâtiment de 3 étages, infiniment étroit, presque écrasé entre 2 immeubles au cœur du Caire islamique. Une classe de dessin, une salle de consultation, une petite chambre de 4 lits pour les enfants qui veulent se reposer. Depuis son bureau, elle fait pivoter son ordinateur pour nous montrer quelques photos.
Sur cette photo, on voit que quelqu'un a jeté un produit brûlant sur cette jeune fille. Tout son corps a été brûlé. Ça s'est passé pendant une bagarre et cette bagarre est survenue parce qu'un autre enfant a essayé de la menacer pour qu'elle donne son argent et qu'elle couche avec lui. Si elle dit non, la punition est de la brûler ou de la couper avec un couteau. On voit qu'elle a des cicatrices aussi. Nous souffrons dans ce travail. Nous avons tous besoin d'un psychologue pour nous aider à continuer. Parce que ce travail est difficile. Nous parlons à des cas sociaux. Leurs problèmes sont insupportables. Et nous ne dormons pas dans la rue. Nous ne faisons pas face aux mêmes problèmes que les enfants. Donc nous souffrons beaucoup.
L'une des plus grandes difficultés pour ces travailleurs sociaux, c'est d'accompagner ces enfants en grande souffrance, sortis du système scolaire depuis longtemps, devenus marginaux. Les aider à réintégrer la société avec ses opportunités, mais aussi ses contraintes et ses codes. Anna Aboulgar, fondatrice de Banati, une organisation qui prend en charge presque exclusivement les filles, tente de trouver des solutions à ce défi de taille avec l'aide de ses collègues.
Le traumatisme de l'abandon, ajouté à celui de la vie dans la rue à un jeune âge, c'est-à-dire l'illusion d'une liberté absolue, personne pour vous contraindre, personne pour vous protéger, eh bien cela change complètement la structure mentale de l'enfant. Et il devient très difficile pour eux de s'adapter aux règles sociales, même longtemps après. Difficile de se lever le matin et de dormir le soir, de suivre des repas à heure fixe et d'accepter n'importe quelle forme d'éducation.
Look, we deal with a difficult problem and difficult situations.
Écoutez, on fait face à des situations qui sont très difficiles. On essaie de leur apporter de l'amour, de leur faire sentir qu'on les aime. Ici, mon nom, c'est pas Abdel Samir, le travailleur social, le manager. Pour elles, en fait, je suis plutôt comme un papa. J'essaie de leur donner de l'attention pour essayer de faire en sorte qu'elles oublient tout ce qu'elles ont subi dans le passé. Et quand on a cette confiance, quand on a cet amour, on peut commencer un travail de réhabilitation. Si on ne fait pas ça, ça devient difficile. Parce qu'en fait, on ne traite pas qu'avec les enfants. On traite aussi avec la famille, on traite aussi avec la société.
Le gouvernement et une partie de la société égyptienne refusent de prendre sérieusement en charge ces enfants, perçus comme un coup, une menace pour la société. En 2014, l'un des plus grands quotidiens du pays publiait même une tribune d'un universitaire dans laquelle il proposait de les tuer pour venir à bout de ce fléau. une méfiance vis-à-vis de ses enfants, victimes du système, dénoncé par Anna Abulga.
Selon moi, ce problème ne peut être réglé qu'en facilitant la coopération entre le gouvernement, la société civile et les médias. Et le rôle du gouvernement doit être d'abord la prévention avant d'essayer de s'occuper des enfants qui sont déjà dans la rue. Le gouvernement doit développer les quartiers dont sont issus ces enfants, la plupart du temps des quartiers informels. 8 millions de personnes vivent dans ces bidonvilles, qui s'ajoutent à des millions de personnes qui vivent dans une extrême pauvreté à la campagne. Ces quartiers sont les principaux pourvoyeurs d'enfants des rues. Si le gouvernement s'occupait de ces quartiers, alors les enfants en situation de rue seraient beaucoup moins nombreux. Ça nous aiderait beaucoup. Et la société civile serait capable d'aider ces enfants. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois que nous aidons un enfant, il y en a deux ou trois autres qui débarquent dans la rue. Il y a de nouveaux venus chaque semaine. Donc c'est impossible de résoudre le problème sans arrêter cette hémorragie.
Face à une société mal informée, la réintégration de ces enfants est un pari difficile. Nombreux sont les jeunes qui, après être sortis de la rue, y retombent. Anna Abulgar y diagnostique une forme de dépendance.
La structure mentale des enfants est vraiment similaire à celle d'un drogué, addict à la liberté absolue. Dans la plupart des cas de dépendance à la drogue ou à l'alcool, on observe des rechutes. Pour les enfants, c'est pareil. Ils retournent dans la rue, parfois après des années de prise en charge. C'est dur à accepter pour les travailleurs sociaux. Parfois, il y a des filles qui réussissent, elles vont à l'école, elles vont bien, elles semblent insérées, et soudainement, quelque chose de mineur peut se produire, et elles retournent dans la rue avec tous les problèmes que cela comporte. C'est très frustrant pour les personnes qui travaillent avec les enfants.
Après des années dans la rue, retrouver le chemin de l'école ou trouver un travail est difficile pour bon nombre d'entre eux. La discrimination est un facteur aggravant qui pousse de nombreux jeunes à abandonner le chemin parcouru avec les associations.
Il y a eu quelques progrès ces 10 dernières années. Mais le chemin est encore long pour que l'opinion publique montre une vraie compréhension et empathie pour les enfants et accepte leur réintégration. Tant que la société n'a pas la volonté de réintégrer ses enfants, c'est sans fin, parce que nous ne pouvons pas les garder dans les foyers pour l'éternité. À un moment, ils doivent être réintégrés dans la société. Tant que ce ne sera pas le cas, nous aurons de gros problèmes.
Les filles sont particulièrement touchées par ce stigmate. C'est la raison pour laquelle Banati a choisi de concentrer ses efforts sur elles. Elles représentent 40% des enfants dans la rue, un taux qui augmente depuis quelques années.
Dans notre culture en Égypte, si une fille se retrouve à la rue, il sera alors très difficile de la renvoyer dans sa famille. Parce que si jamais elle tombe enceinte, elle aura beaucoup de problèmes à affronter, des problèmes de papier d'identité, des problèmes avec la société.
Dans ce centre en périphérie du Caire, presque intégralement financé par l'homme d'affaires Samir Sawiris, 222 jeunes filles vivent en communauté. Les chambres sont parfaitement rangées, les peluches déposées avec soin sur les lits colorés. Après le centre de jour et le centre intermédiaire pour les filles en grande difficulté psychologique, c'est la troisième étape de la réhabilitation. Ici, les enfants tentent de se reconstruire et pour cela, l'organisation mise sur l'art et le sport, des salles de dessin, des cours de couture, des ateliers origami et même un potager, autant d'activités pour laisser l'imagination se développer, trouver une source de satisfaction, d'encouragement et pour certaines, une potentielle vocation pouvant déboucher sur un métier. Hena a 18 ans et vit avec sa petite sœur dans le centre depuis l'âge de 14 ans.
J'aime beaucoup le foot, le kung-fu, les dessins, la musique, en fait, toutes les activités que l'on me propose, l'origami aussi.
L'entretien s'arrête ici, pas de questions sur l'expérience de la rue, au risque de rouvrir les plaies du passé, a prévenu le docteur Aboulgar. Un peu plus loin, sur le terrain de jeu, Fatma, 14 ans, explique qu'elle veut devenir photographe, un rêve que l'on s'accorde depuis que l'une des filles du centre a été récompensée par le prix National Geographic pour ses photos. L'organisation Banati s'applique à créer des passions et des perspectives d'avenir. C'est d'ailleurs peut-être la chanson qui est promise à Fatma et à ses grands yeux verts. Enfant des rues en Égypte, l'impossible réhabilitation. Un grand reportage de François Imfer Kataji, réalisation Mathieu Salabert.
Bonjour François Imfer Kataji.
Bonjour.
Combien sont-ils ces enfants des rues en Égypte ? Est-ce qu'on a des chiffres exacts ?
Eh bien, la dernière enquête a été effectuée par le ministère de la Solidarité sociale en 2014. Elle conclut qu'il y a 16 000 enfants des rues en Égypte. Mais toutes les ONG ou organisations internationales comme l'UNICEF sont unanimes pour dire que ce chiffre est largement sous-estimé. Certaines parlent de 300 000, 500 000, voire 1 million d'enfants des rues. C'est très difficile de recenser ces enfants car ils sont en mouvement tout le temps, ils se déplacent toute la journée, ils dorment rarement au même endroit. Et puis, lorsque les ONG ou des représentants du gouvernement les interrogent, ils donnent des faux noms pour, pensent-ils, s'éviter les problèmes. Et je le rappelle, les enfants partent vivre dans la rue principalement en raison de violences physiques, sexuelles ou psychologiques exercées par les parents ou par des proches.
Alors le gouvernement a pris récemment quelques mesures pour lutter contre ce phénomène, mais selon les ONG, c'est clair, c'est insuffisant.
Oui, j'ai rencontré le directeur de l'UNICEF en Égypte, Bruno Maes, et il se félicite d'un nouveau plan d'action lancé par le ministère de la Solidarité sociale. La formation de 600 travailleurs sociaux répartis dans 15 gouvernorats est basée dans des maisons pour l'enfance. Alors on le sait, l'UNICEF est souvent adepte de la méthode Coué, très diplomate, prête à appuyer toutes les initiatives gouvernementales. Mais le son de cloche n'est pas le même lorsque j'interroge hors micro tous les travailleurs sociaux. Pour eux, le gouvernement n'a aucun plan viable à long terme et surtout ne s'attaque pas aux racines du problème. Les orphelinats gouvernementaux, par exemple, sont parmi les principaux pourvoyeurs d'enfants des rues, tant la violence y est commune. Il faut dire aussi qu'il y a toujours eu une défiance assez marquée entre la société civile et le gouvernement. Lorsque le SAMU social a commencé son activité, par exemple, on a accusé les équipes de faire partie de réseaux de trafic d'organes ou encore de donner une mauvaise image de l'Égypte. Et pendant pratiquement toute l'année 2014, leur permis de travail a été suspendu en quelque sorte, il n'a pas été renouvelé. Les choses sont rentrées dans l'ordre désormais et le SAMU social espère même devenir un partenaire du gouvernement pour aider à la formation de ces nouveaux travailleurs sociaux.
Et Hillary Clinton et le président Sisi se sont rencontrés à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. La candidate démocrate à la présidentielle américaine a demandé au Raïs de libérer une ressortissante américano-égyptienne en prison depuis plus de 2 ans. Et François Imfer Kataji, elle travaillait avec les enfants des rues, justement.
Oui, cette affaire devient peu à peu une véritable épine pour les relations égypto-américaines. Aya Hijazi et son mari avaient fondé l'ONG Baladi pour venir en aide aux enfants des rues. Alors l'affaire est floue, l'ONG n'aurait pas respecté les règles d'enregistrement imposées par le gouvernement. La justice, elle, accuse le couple de trafic d'êtres humains, avortement, incitation à l'homosexualité, abus sexuels, pornographie et autres chefs d'accusation. Des accusations qui n'ont jamais été étayées de témoignages ou de preuves réelles. D'ailleurs, les directeurs de Baladi sont aujourd'hui soutenus par 25 autres ONG. Puis Aya Hijazi et son mari Mohamed Hassanein sont en prison, en détention provisoire depuis 28 mois, sans qu'aucun jugement n'ait été prononcé contre eux. C'est dire donc si cette question des enfants des rues peut être une question sensible politiquement. La Maison-Blanche a récemment demandé au Caire d'abandonner les poursuites et de libérer le couple, mais le ministère des Affaires étrangères égyptien a répondu comme à son habitude, indépendance de la justice.
Enfants des rues en Égypte, l'impossible réhabilitation, point d'interrogation. Votre grand reportage François Imfer Kataji est à retrouver, à réécouter quand vous le voulez sur RFI.fr.